I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Serge, l'émission, Patrice Bardot, Didier Varro, Antoine Dabrowski.
L'amour du hit, c'est aujourd'hui notre mantra sur Tsugi Radio, en direct et en public du Théâtre du Nord à Lille pour le Name Festival. Dans la foulée du numéro d'été de Tsugi qui posait la question « Y a-t-il encore des tubes à l'époque de TikTok et du streaming ?» Eh ben, on a eu envie, avec le Name et mes camarades Didier Varro et Patrice Bardot, de vous parler de ces titres qui cartonnent et qu'on peut écouter encore et encore sans se lasser. Bien malin celui ou celle qui saura percer le mystère des tubes, trouver la formule magique, même à l'heure des big data, et on peut sans doute s'en réjouir. Daniel Vanguard, père de Thomas Bangalter et de la compagnie créole, confié à Patrice Bardot en novembre dernier, si j'avais la paume des mains qui transpirait, je me disais que c'était un tube. Alors je ne sais pas si c'est dû à la sueur ou bien à la magie, mais tout le monde s'est déjà retrouvé au milieu d'une foule qui reprend par cœur et à l'unisson un morceau que vous n'avez jamais entendu de votre vie. Phénomène probablement amplifié par les algorithmes des réseaux sociaux. Entre la surabondance des sorties, la multiplication des canaux de diffusion et des relais d'influence, existe-t-il encore vraiment des tubes? Quelle carrière aurait eu Nile Rodgers si Sheila n'avait pas changé sa vie avec Spicer, comme il le rappelait à l'Olympia en accueillant la chanteuse sur scène il y a quelques années? Est-ce que Vali serait retourné à New York si Chacun fait ce qui lui plaît n'avait pas été un tel carton? Y aurait-il eu la French Touch sans Around the World des Daft Punk? Alors je ne sais pas si on va pouvoir répondre à toutes ces questions, mais comme c'est la coutume dans Serge l'émission, on va vous parler de nos coups de cœur, de demain, d'aujourd'hui et aussi d'hier, avec mes complices Didier Varro, Patrice Bardot, bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour Antoine.
Content d'être ici au Théâtre du Nord. Didier, un théâtre que tu connais bien.
Mais oui, parce que lorsque j'étais jeune, je venais ici en voiture pour voir les spectacles de Gildas Bourdet. Donc j'étais un abonné du Théâtre du Nord, parce que j'étais fan de Gildas Bourdet, qui a fait quelques tubes en matière théâtrale. Et donc je venais, on partait à 18h, on arrivait, on allait manger des saucisses et de la frite, et après on allait au théâtre et c'était vraiment chouette. Donc je suis très ému d'être là. Je ne savais pas qu'il y avait une petite salle parce que Gildas Bourdet donnait ses spectacles dans la grande salle du Théâtre du Nord, donc je découvre cette petite salle. Et très ému d'être à Lille, même si je ne fais qu'un aller-retour, je suis un courant d'air.
Théâtre qui est aujourd'hui dirigé depuis quelques saisons déjà par David Bobet. Patrice Bardot, toi, Lille, le Name Festival, pour le coup tu connais bien, on y est quand même venu très souvent avec Tsugi et Tsugi Radio.
Oui, c'est vrai. Puis le Name a soutenu Tsugi dès le début de son aventure. Donc c'est vrai, c'est beaucoup d'émotions de se retrouver là, à Lille, pour cette Serge l'émission.
Oui, parce que je suis revenu très souvent à Lille. Enfin, pas très souvent, mais quelques fois à Lille aussi pour le Name Festival, qui est un festival génial.
Pourquoi on est si attaché au Name, d'ailleurs? Pourquoi toi, tu es si attaché au Name, Didier
Varro? Parce que la programmation est excellente, parce que les gens qui incarnent cette programmation le sont tout autant. Parce que c'est une ville et un public très, très chouette, et parce que les lieux qui ont été investis par le Name sont des lieux toujours incroyables.
Et puis c'est une affaire de passionnés, je crois que c'est ça aussi, c'est ce qui compte. On sent des personnes qui font un festival parce qu'elles ont une passion, et automatiquement, comme nous-mêmes on est agité par cette passion, il y a des rapprochements qui se font naturellement.
On va parler des tubes aujourd'hui, c'est un peu le cahier des charges qu'on s'est donné pour cette émission tous les trois. Des tubes qu'on écoute, des tubes qu'on fait parfois, par exemple quand on a travaillé dans l'industrie du disque comme c'est ton cas Didier, des tubes qu'on a aidé à s'accomplir. Quand on est journaliste musical, des fois on fait partie des gens qui sont sur le chemin de ces tubes. Et je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec les tubes, nos tubes d'aujourd'hui. C'est toi qui vas t'y coller en premier. C'est une jeune femme qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Hyphen. Elle s'appelle Santa. Et on va écouter Popcorn Salé. Pourquoi tu as retenu Santa pour aujourd'hui, Didier?
J'ai tellement de choses à dire qu'on va peut-être scinder en deux. D'abord, cette émission, Serge, étant une émission dédiée aux gens qui chantent en français, on avait quand même un peu ce truc-là, sauf sur la dernière catégorie.
On a pris des libertés.
Voilà, des tubes français. L'autre motif du choix, c'est que dans cette émission, Patrice Bardot nous avait présenté en 2022, si je ne m'abuse,
un
des titres de Santa. Je ne crois pas que c'était Popcorn Salé, je crois que c'était le dernier.
Oui, c'est le dernier. Oui, le dernier
tout à fait, qui s'appelle Qui a le droit, qui n'a rien à voir avec la reprise de Patrick Bruel, qui est une chanson sur. Ces revendications à la fois féminines et lesbiennes dans une chanson très juste et très belle, piano-voix. Et on avait beaucoup parlé de Popcorn Salé en disant, voilà, c'est une chanson piano-voix qui est vraiment magnifique, mais qui malheureusement, vu le contexte, vu les plateformes de streaming, vu les nouveaux usages de consommation, ne pourra pas aller jusqu'au cœur du public. Et on a été démenti, il aura fallu presque 2 ans, puisque je pense que ce sera un vrai, véritable tube au début de l'année 2024, mais c'est en train de devenir un tube, je vous expliquerai après pourquoi. Mais enfin, voilà un tube qui n'a rien d'un tube. Une chanson piano-voix, avec une chanteuse qui arrive avec un projet en solo, donc pas encore identifié comme Santa, avec une chanson qui dure 3 minutes 58, donc aux antipodes des contraintes que les plateformes de streaming tentent d'imposer aux artistes et aux labels. Plutôt des titres de 2 minutes, 2 minutes 10. Je ne vous parle même pas de TikTok. Une chanson anti-TikTok, une chanson qui voilà, ne peut pas passer non plus dans les radios traditionnelles, puisque trop lente, pas assez produite. Et bien voilà, c'est en train de devenir un tube et je vous raconterai la suite après la chanson, peut-être qu'il faut l'écouter.
Et c'est en effet en train de devenir un tube parce qu'on est quasiment à 10 millions sur Spotify, 3 millions sur YouTube. Popcorn Salé, Santa en direct de Lille sur le player de la Tsugi Radio.
Jouer le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez, viens, je t'emmène. Jouer les beaux mots au milieu des femmes, le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux. Remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos étouffer les flammes. J'éteindrai le chaos, tu seras ma femme. Et on se regardera dans les yeux, dire que demain sera mieux. Je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende dehors. Allez, viens.
Santa sur la Tsugi Radio dont Serge l'émission qui est en train de devenir un tube, de faire un tube avec ce morceau Popcorn Salé. En même temps, c'est pas la première fois dans l'histoire de la musique qu'une chanson piano voix devient un tube. On en a parlé dans Serge d'ailleurs à propos de Un homme heureux de William Scheller ou à propos plus récemment de sur un prélude de Bach de Morane. Didier, peux-tu nous raconter un peu le cheminement de ce morceau vers le public?
Mais tu fais bien de rappeler surtout l'histoire de ces deux chansons. Que sont le prélude de Bach et Un homme heureux, parce que c'est un peu le même parcours sinueux, c'est-à-dire que la chanson donc, va bientôt avoir 2 ans. Hein, et donc, du coup, ça ne l'a pas fait. Quoi. Elle s'est fait jeter à peu près de toutes les radios, après un accueil plutôt positif des programmateurs de radio, en disant « mais non, mais c'est pas jouable ». Et d'ailleurs, j'ai remarqué, en la positionnant aujourd'hui en ouverture de cette émission, que même moi, j'ai dit « putain, l'intro est super longue, normalement, ça n'existe pas ». Je pensais que, voilà, on l'aurait presque même...
C'est totalement atypique par rapport
édité,
à la production actuelle.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Santa a fait quand même une ou deux télés, une ou deux apparitions, piano-voix, qui ont commencé à faire frissonner le top Shazam et qui ont peut-être un peu changé le regard et sur Santa et sur la chanson. Il faut dire que la chanteuse de Hyphen Hyphen venait aussi de démarrer une nouvelle tournée internationale puisqu'ils sortent d'une tournée aux États-Unis avec leur projet Hyphen Hyphen. Donc, ce n'était pas non plus une disponibilité totale sur son projet solo. Et puis, il s'est passé un truc. Quand ça commence à intriguer le top Shazam, les programmateurs de radio testent la radio à leurs auditeurs dans des panels et il y a eu des retours de fous. Donc les radios l'ont rentré un peu contraint en se disant bah, si nos panels sont bons, c'est pas le système du service public ou de Tsugi Radio, mais en tout cas ça existe dans la plupart des radios. Ils ont commencé à rentrer le titre qui est encore mieux testé. Et puis il y a eu quelques moments forts, une télé en France au moment de l'émission spéciale sur la tragédie du tremblement de terre au Maroc. On sait pas pourquoi ils avaient invité Santa, mais ils l'ont invité parce que rien à voir avec le tremblement de terre. Mais il se trouve que ça a vraiment fait monter le titre dans les tops, notamment au top iTunes, même s'il n'a plus la même force qu'il y a encore une dizaine d'années. Et puis, il s'est passé ce truc aussi pas très loin d'ici, en Belgique. Elle a fait un live avec un piano suspendu dans les airs à 8 mètres de hauteur. Elle a fait cette chanson en live. Et donc, les images ont tourné de façon virale sur l'ensemble des réseaux sociaux et ça de nouveau capter un nouveau public. Et là, elle se retrouve aujourd'hui avec 14 millions de streams. Elle est disque d'or en single, sans avoir les deux plus grosses radios que sont France Inter et Énergie. Et donc, voilà, c'est intéressant. Et donc, Énergie, quand même, la nomme deux fois dans deux catégories parce que on sait jamais. Ces gens-là ont tellement de flair qu'à un moment donné, ils se sont dit on sait jamais. Donc, effectivement, parcours sinueux. Parcours au long cours et ça montre encore, heureusement, quelle que soit l'appréhension qu'on peut avoir de la chanson, que c'est possible. C'est de moins en moins évident, mais c'est encore possible d'avoir des contre-exemples à ce qui fait aujourd'hui, si la réalité existe vraiment, le tube.
Oui, Patrice.
C'est ce qui est assez fascinant d'ailleurs, d'autant plus que ça vient d'une chanteuse Santa qui avait une image un peu hystérique avec son groupe Hyphen Hyphen. C'est bon, voilà, c'est une chanson.
Une image de pop très un peu survitaminée, un peu l'énergie, etc.
Et puis un Olympia qui a été une tragédie totale, qui reste dans l'histoire des grandes premières de l'Olympia, puisqu'elle était bourrée et défoncée et qu'elle n'a pas fini le show. Donc elle a fait une demi-heure de show.
Elle s'est sabordée en direct.
Mais pour être tout à fait complet, moi j'étais à Marseille pour la Fiesta des Suds où on était hier également. Le lendemain de l'Olympia.
Quel voyageur.
C'est ça. Le lendemain de l'Olympia et de cet Olympia, effectivement, toute l'équipe de la Fiesta des Suds, toute la journée, a eu peur que le concert soit annulé. C'était quand même leur tête d'affiche du vendredi ou du samedi. Et ils ont fait un concert exceptionnel. Et notamment elle, qui était sans doute en gueule de bois, mais en tout cas sobre. Et elle a fait un truc de malade
mental. C'est une très, très grande performeuse. C'est Hyphen Hyphen. C'était un groupe qu'on avait mis en couve de Tsugi il y a 10 ans maintenant, avec tous les espoirs de la scène. Il y avait la femme notamment. Il y avait Hyphen Hyphen qu'on avait repéré, parce qu'il y avait une énergie assez incroyable. Après, c'est devenu un peu plus commercial, on va dire. Mais il reste cette énergie qu'on ne sent pas forcément, mais dans un autre registre. beaucoup plus émotionnel dans ce titre.
Et puis quand même discours queer aussi qu'il faut souligner, aussi. Y compris dans cette chanson, La femme de ma vie, etc. Ouais. Il faut quand même le dire, et qui a le droit où elle revendique aussi cette queer attitude qui est queer réalité, qui fait qu'on a aussi une génération qui pousse. Je ne vais pas revenir à ce que j'ai dit sur Muriel Robin, mais il y a des jeunes qui assument et qui n'en ont rien à foutre que les homophobes existent, qui continuent à lutter, et c'est bien.
Et c'est bien, et peut-être aussi une nouvelle chanson que les femmes lesbiennes vont pouvoir s'approprier, comme à l'époque Mécano, une femme avec une femme.
Aïe, aïe, aïe.
Ah bah on a dit qu'on parlait de tube.
Voilà, la oui, référence.
Patrice Bardot, toi, le tube dont tu vas nous parler, il est assez récent parce que l'album est sorti, voilà, alors que Fanny Bouillard qui rentre ici au Théâtre du Nord.
Quel honneur.
Le tube dont
c'est
tu
le
vas
tube. Nous... Elle, c'est un tube.
C'est un tube, c'est un tube en elle-même.
C'est un album qui est sorti au mois de juin, qui est signé d'un garçon qui vient plutôt de la scène hip-hop, qui s'appelle Luigi.
Oui, mais là aussi, c'est quelque chose d'un peu atypique, un peu comme Santa. C'est un artiste qui est un peu comme Michon, qui se décrit comme quelqu'un qui chante du rap. Parce que c'est vrai qu'il est entre deux univers, c'est autant de la chanson, autant du rap. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce titre qui s'appelle Reste en vie, qui est aussi en train de grimper et qui est en train d'être un des tubes de l'année. C'est qu'on est une génération de rappeurs, on va dire, qui est autant inspiré par du rap que par de la chanson et qui s'en sert pour sortir des textes, des musiques totalement en dehors du temps, on va dire, mais qui réussissent à trouver aussi leur public, parce que ça reflète aussi le fait qu'aujourd'hui, on n'écoute pas forcément que du rap, que de la chanson, qu'on n'est que électronique. Donc c'est ce mélange qui m'a séduit là-dedans, et chez Luigi, qui est un rappeur de l'origine haïtienne. Il a déjà sorti, deux albums, ouais. Et il fait une grande tournée. Il est à la Condition Publique, justement, où le NEM se produit ce soir, vendredi prochain. Et il annonce déjà un Bercy en novembre 2024.
C'est quand même un tube.
Et un artiste qui est indépendant, qui était au départ dans une major, qui a quitté tout ça, qui a tourné le dos. Il a créé son label Foufoune Palace, quand même. Très beau titre de label. et c'est le retour dans le maquis qui finalement produit la réussite.
C'est aussi quelqu'un qui un phénomène qui naît comme ça, un peu pas le bouche à oreille, mais l'internet à l'oreille, on va dire, et qui aboutit à cette chanson que j'aime beaucoup, je pense que vous aimez aussi.
Et c'est un sacré chanteur, Luigi, sur la Tsugi Radio en direct du Théâtre du Nord. Ça s'appelle Reste en vie.
J'aimerais tellement que tu vois ce que je vois. J'aimerais tellement te prêter mes yeux, que tu puisses voir le feu qui sommeille en toi. Le paradis, l'enfer sont le même endroit. J'aimerais tellement que tu vois ce que je vois. J'aimerais tellement te prêter mes yeux, que tu puisses voir le feu qui sommeille en toi. Le paradis, l'enfer sont le même endroit. CDI de 8h à 8h, semaine de 48 heures. Je n'étais qu'un gosse, un rêveur, ce qu'ils appellent un rappeur de Twitter. Je traînais dans les DM de combien de ces belles sirènes que j'invitais à mes clips moi-même. N'oublie jamais ta mission, pour un peu d'amour, un peu d'attention. Surtout si tu ne vis pas encore du son ou de ta passion. Donne-toi les moyens de tes ambitions, prends soin de toi. Trouve un job, arrondis tes fins de mois. Assume-toi, c'est le premier pas. Assure-toi bien de l'amour des gosses, du respect des anciens. Jeunes souvent mangent bien. Garde la tête haute même quand t'es en chien. Et quand tu montes, n'oublie personne en chemin. Je sais que d'avoir ta mère contre toi, c'est plus dur que d'avoir le monde contre toi. Mais j'aimerais tellement que tu vois ce que je vois. J'aimerais tellement te prêter mes yeux que tu puisses voir le feu qui sommeille en toi. Le paradis, l'enfer sont le même endroit. J'aimerais que tu restes en vie. J'aimerais que tu restes en vie. J'aimerais que tu restes en vie. J'aimerais que tu restes. J'aimerais que tu restes en vie. 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 J'aimerais que tu restes en vie.
Luigi sur la Tsugi Radio, premier choix de Patrice Bardot. Voilà, on a décomposé notre sélection entre les tubes français d'aujourd'hui. Il va y avoir les tubes d'hier et ça, vous allez
un grand moment.
Ça va être un grand moment. Vous allez vivre un grand moment.
Gold sur Tsugi
et puis
Radio.
Il y aura aussi, comme on est quand même au Name Festival ici pour le Name Festival en direct du Théâtre du Nord, il y aura aussi les tubes électro. Peut-être juste pour terminer sur Luigi, que moi j'ai pas encore eu la chance de voir sur scène.
Moi
Didier, toi tu l'as vu sur scène.
Oui, je l'ai vu il y a 15 jours. À la Maison de la Radio et de la Musique pour un concert France Inter et c'était super. Franchement, le mec il a un charisme de feu. Donc pas d'autotune, jamais, hein. Il n'y a pas d'autotune.
C'est agréable.
Oui. Guitare, basse, batterie, clavier, donc une formation très, très old school, et ça reste quand même avec une tonalité, une couleur hip-hop, et c'est vraiment bien, c'est super. Franchement, le mec, oui, petite scénographie même, qu'il avait transportée à la Maison de la Radio de la Musique, ce qui est quand même une performance, et des très, très jolis éclairages. En fait, ça raconte un truc au-delà des chansons, de sa manière de parler aux gens. Et alors, un public ultra jeune, parce que moi, je trouve ça assez adulte, en fait. Et dans la salle, il n'y a que des kids, quoi, qui ont 20 ans...
Oui, c'est ce qui prouve. Voilà, on souvent schématise un peu, ouais, la jeunesse, elle aime que le rap, le gangsta rap. Et bon, voilà. Mais non, si quelque chose est bon, elle peut tout à fait le repérer. Et surtout quelque chose où on sent voilà, quelqu'un qui met ses tripes, qui cherche quelque chose d'un peu atypique, parce qu'il y a d'autres morceaux sur l'album qui sont vraiment très spéciaux, vraiment. Piano désincarné, c'est vraiment très intéressant.
En tout cas, un bel univers, ce Luigi. On parle des tubes aujourd'hui, et c'est vrai que si nous, en étant journalistes musicaux, on nous envoie des mails, et puis on a nos playlists, on a nos réseaux, on a nos relais, etc. On lit ce que font les confrères et les consoeurs, on écoute les autres radios. Mais les gamins, ils découvrent pas beaucoup la musique comme ça. Notamment, les gamins, ils découvrent la musique sur TikTok. Et je voulais qu'on fasse un petit point sur TikTok, notamment avec ces versions sped up. On va écouter en fin de sortie de route totale, parce qu'on va écouter un titre en anglais.
Oh non, c'est pas possible, je m'en vais.
Mais on va le lancer, ce titre en anglais, une version sped up de Lana Del Rey. Lana Del Rey, donc Summertime Sadness. On va en écouter un petit peu, juste pour voilà, essayer de décortiquer ce petit phénomène qui se passe en ce moment.
I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my god, I feel it in the air. Telephone wires above, all sizzling like it's there. Hook me up, I'm fine, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me all before you go.
Voilà, Lana Del Rey devient une espèce de
René La Taupe
ou les Chipmunks. Ouais. Et en tout cas, Lana Del Rey atterrit sur le dance floor quelque part, parce que le tempo accélère quand même sacrément. Donc c'est On a tout dit sur TikTok, mais il y a ça, puis il y a aussi le fait que des gens en concert connaissent que 45 secondes d'un morceau, puisque c'est les 45 secondes qui sont sur TikTok.
Et après, ils s'en vont. C'est ça aussi. Voilà.
Est-ce que tu découvres des morceaux sur TikTok, toi?
Alors non, j'ai un compte TikTok qui est mort, mais beaucoup de gens essayent de
Pourtant, on m'a dit que t'avais fait des danses sur TikTok.
Non, j'ai pas fait des danses. J'ai fait quelques vidéos qui ont été un sombre naufrage. Pourtant, je voulais faire un peu jeune et tout, mais ça a pas marché. J'ai voulu aussi varispider des images et ça n'a pas marché. Non, ce qui est très intéressant dans ce phénomène, c'est quand même que juste Lana Del Rey, on l'a aimée pour l'inverse, c'est-à-dire cette voix presque neurasthénique sous l'exomile, dans les graves, et donc là, ça va pas, quoi, ça va pas du tout. Mais ce qui est un peu tragique, c'est que moi, je suis allé voir Lana Del Rey à l'Olympia, qui a fait un assez joli concert compte tenu des conditions, c'est-à-dire qu'elle a devant elle un public qui a un troisième bras qui s'appelle l'iPhone ou le téléphone, avec lequel ils font des trucs qu'on ne comprend pas. Et surtout, quand elle chante cette chanson, ils sont en avance sur elle. C'est-à-dire qu'ils chantent la chanson, puisqu'ils la connaissent, mais ils la connaissent par TikTok. Donc, ils ont toujours un temps d'avance, ce qui fait que c'est atroce, quoi. C'est atroce. Il y a l'inverse aussi, où les mômes ralentissent les morceaux, et ça a permis notamment à Stromae, sur son dernier album, de revenir un peu au devant de la scène avant que son album ne sorte, puisque Alors on danse avait été à l'inverse, alors je ne sais pas comment on dit, l'inverse de varispider, mais
slow,
ralenti.
Slow up.
Voilà.
Speed up,
sûrement.
Slow up.
Et merci. Et du coup, Alors on danse est devenu un truc. Alors pour le coup, c'était un peu plus réussi.
Alors on dort.
Parce que la chanson, elle est déjà un peu. Elle a un truc à la Ken Loach, comme je dis toujours. Donc effectivement, on peut s'imaginer que. On a cette espèce de gueule de bois parfois quand on sort en club et tout ça, mais que vous dire sur TikTok? Tragique, mais il faut pas dire c'était mieux avant, donc on va se taire parce que sinon on fait vieux con. Mais voilà.
Oui, mais finalement on a beaucoup. C'est marrant parce qu'on fête l'anniversaire de l'album de Cher avec Do You Believe in Life?
Enfin,
After
tu
Love.
Fêtes.
Bah, on fête parce que oui. parce qu'ils sortent une version. En fait, parce qu'ils sortent
une
version remixée.
On fait l'anniversaire de l'album de Cher. Non,
pas du tout.
Je reprends le contrôle de cette émission. On fait, puisque on sort, donc son label sort une édition collector pour les 25 ans. Et à l'époque, déjà, l'autotune, on était quand même un peu contre, même si ça nous amusait d'écouter
moi,
Cher.
J'aime bien, moi.
Et l'autotune, maintenant, est quand même partout. Donc, est-ce que c'est aussi un truc technologique auquel on est en train de se.
Non,
moi non plus. Je pense que là, il y a autre chose. Là, on rentre dans un truc qui est effectivement, c'est les chipmunks, c'est un truc qui est au contraire de la réalité artistique. Alors, je veux bien passer pour un vieux con, ça me dérange pas, mais c'est écouter ça, c'est totalement déformer l'essence du titre. C'est même pas, c'est pas un remix, quoi. C'est faire un truc qui est. Je comprends même pas que l'artiste soit d'accord. C'est ça qui est bizarre. C'est pirate ou c'est autorisé par l'artiste?
Ah non, c'est autorisé.
Voilà,
ouais.
je comprends
money
pas.
Money is money.
Je comprends pas. Mais je vois pas l'intérêt. Enfin, franchement.
Mais de toucher plus de gens, de toucher d'autres gens.
Je vois très bien l'intérêt.
Je vais me faire l'avocat du diable, mais.
L'Olympia s'est rempli en 5 secondes et demie et qu'elle aurait pu faire un Bercy, je cherche le nom de Accor Arena, pardon. Largement, voilà, ça veut dire qu'elle a renouvelé son public aussi par ça, quoi.
Je suis pas certain que ça soit vraiment cette version sped up qui permet de.
Je suis super fan de Lana Del Rey depuis le début. J'étais le seul vieux. Enfin, on était 4-5, quoi.
Oui, non, il y en avait pas mal. Moi, je connais des gens qui étaient.
Ah bon,
ils avaient quand même.
Ça me rassure.
Quadra quinca. Donc, j'étais pas le seul.
Allez,
mais bon, c'est très.
Allez, Antoine.
Allez, prochain tube sur la Tsugi Radio. On va l'écouter d'abord un petit peu parce qu'on l'a jamais écouté sur Tsugi Radio.
Non, c'est vrai, on ne sait pas qui est-ce.
Non, d'ailleurs,
c'est
non, c'est.
La fin.
Voilà.
Ah. Le tout dernier matin, le tout dernier jasmin. Ne me lâche pas la main, c'est la fin. Le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo.
C'est la fin.
Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour ma santé mentale vu le nombre de fois que j'écoute Juliette Armanet, mais je ne vais pas vous parler de Juliette Armanet. Moi, je voulais vous parler de la production de cet album, parce que donc faire un petit point chiffre quand même. Cet album, il vient d'être certifié double platine, donc 200 000 exemplaires vendus. Ce single certifié diamant, lui, ce qui correspond à 50 millions d'équivalents stream pour un titre qui est sorti en septembre 2021. Donc c'est pas non plus le carton spectaculaire de Luigi qui fait 10 millions en deux mois. Mais malgré tout, c'est un titre très très fort. Et ce qui m'intéressait avec ce titre, c'est de voir avec qui, et de rappeler avec qui Juliette Armanet a travaillé. Donc elle a composé ce morceau avec son frère, Adrian. Elle a écrit les paroles en compagnie de Diane Jacques. Mais à la production, on retrouve, comme par hasard, des gens qu'on aime bien au Name, qu'on aime bien à Tsugi, qu'on aime bien à Tsugi Radio, des producteurs issus de la scène, des scènes électroniques. Sébastien, qui est devenu vraiment voilà, qui avait fait l'album de Charles Gainsbourg avec le succès qu'on sait. On retrouve aussi Marlon B et Yuxek, qui a fait à la fois des productions, parce que le beat du dernier jour du disco, c'est lui, en fait, le drive disco, avec le pied sur tous les temps, c'est vraiment du Yuxek tout craché. Et Yuxek a aussi mixé le morceau. Et en fait, c'est vrai, quand on regarde, par exemple, je sais pas, je pense au faire une comparaison avec les séries américaines, où ce sont des teams d'auteurs qui écrivent les scénarios, les dialogues, etc.
Et dans les grosses productions musicales.
C'est pareil. Voilà, Beyoncé, teams, Beyoncé, combien ils sont pour faire l'étude de 40. Beyoncé? Et voilà. Et en fait, est-ce que j'ai l'impression, et peut-être Juliette, mais aussi Clara, etc., on mène la production française un peu là-dessus, c'est dans une variété, c'est de la variété, assumons de le dire, mais une variété assez chic et qui va chercher les gens de l'underground pour l'aider justement à toucher d'autres publics et à surtout voilà, faire... Moi, enfin, qui connaît bien l'œuvre de Yuxek, comme moi je le connais assez bien, sait que il est assez irrésistible pour faire groover et danser n'importe quoi, n'importe qui, ses propres morceaux et bien sûr les morceaux qui fait pour les autres. Et ça, j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu nouveau, ou en tout cas, ce qui est nouveau, c'est que cette génération-là que nous on soutient à Tsugi, et quand on faisait Electron Libre Didier, ils sont maintenant en position de faire les gros tubes d'aujourd'hui.
Je pense que c'est un échange entre eux deux. C'est-à-dire que Yuxek, je pense qu'il avait besoin de Juliette pour faire un gros tube, et Juliette avait peut-être besoin de ce savoir-faire un peu électronique disco pour aussi dépasser son registre de simple chanteuse.
Ce qu'on Didier. Appelle les hitmakers, hein, en anglais, et Yuxek, c'est un peu le hitmaker français aujourd'hui, puisqu'il a quand même participé à la renaissance de La Grenade, qui était quand même un bide intersidéral au moment où il est sorti. Ils ont essayé 12 versions et demie qui n'ont pas marché. Et en fait, c'est en confiant la production et le dernier mix à Yuxek que la chanson a réussi à trouver une place de programmation dans les playlists des FM.
Mais là aussi, c'est il y a une influence aussi du rap, parce que les teams de production, tout ça, c'est quand même, à la base, c'est quelque chose qui vient du rap. Donc je pense que voilà, ils se sont inspirés de ça.
Beatmaker, hitmaker,
voilà. Chacun fait un peu, il y a un morcellement des talents qui fait que chacun apporte sa touche pour créer un truc qui devient au final irrésistible.
Alors c'est l'heure de passer maintenant à nos tubes d'avant. J'ai déjà cité ce nom tout à l'heure dans mon introduction. Je pense que ça se passe de lancement en même temps, ce titre-là.
Oui, on va écouter.
On va écouter. Ouais, je pense que les gens connaissent. Hein.
Danser, danser, danser au bal masqué. Au bal.
Alors c'est pas on a aucun tabou sur Tsugi Radio, vous le savez, et c'est pas complètement la première fois qu'on passe la compagnie créole, puisque les copains de Pardonnez-nous avaient eu la bonne idée, la très très bonne idée, de ressortir le remix qu'avait fait Larry Levan, quand même le dieu des DJ, pour Aïe Awala, que je prononce très mal parce que je parle pas du tout créole. Mais du coup, Patrice Bardot, c'est évidemment toi qui as choisi le bal masqué.
Évidemment, mais enfin bon. C'est pas, j'ai pas une passion particulière pour la compagnie créole, mais je voulais vraiment parler de Daniel Vanguard, qui est le producteur derrière la compagnie créole. Daniel Vanguard, comme tu l'as dit, c'est le père de Thomas Bangalter, un faiseur de hits assez incroyable, qui, avec son copain Jean Kluger, depuis la fin des années 60, on va dire, ont enregistré toute une série de hits pour Claude François, Dalida. Son premier, c'était pour Rick Azara. Il a créé le Casa de Choc, une danse accompagnée d'un tube. Et puis surtout, il s'est mis à inventer des groupes qu'il a montés de toutes pièces, comme la Compagnie Créole, comme Otawan, comme les Gibson Brothers. Et ça a été des succès incroyables. Il vendait 100 000 exemplaires de singles par jour, quoi. Il faut imaginer le truc. Et c'est quelqu'un qui est assez fascinant, que j'ai eu la chance de rencontrer. Il a donné sa première interview il y a un an et demi.
C'était au mois de novembre dans Tsugi.
Voilà, parce qu'il est toujours assez dans l'ombre. Il ne voyait pas l'intérêt de raconter sa vie et tout ça. Et là, à la faveur d'une compilation qui est sortie chez Bicos, donc il s'est mis à parler et à raconter très simplement pourquoi il a fait ces tubes-là. C'est quelqu'un qui veut faire des tubes, des morceaux joyeux, quoi. Ce qui l'animait, c'était de faire danser les gens, parce qu'il a connu très jeune, il allait avec ses parents en Espagne au début des années 60, et lui il allait déjà dans des clubs à 14 ans, et après il a été à New York, et là il a découvert le disco dans les boîtes new-yorkaises de l'époque, et c'est là où c'est ce qui lui a donné aussi l'envie et l'idée d'importer cette musique.
Mais ça, c'est des choses qu'on... Alors, je vais citer plusieurs éléments, mais il y avait les boys bands, et puis il y avait aussi un autre, pendant que Daniel Vanguard et Jean Kluger faisaient ces titres-là pour Ottawa de la Compagnie Créole, il y avait aussi Henri Bellolo qui avait créé Scorpio aussi. Music. Où ils ont fait beaucoup de choses, donc ils ont créé les Village People, hein, pareil sur le même principe, la compagnie créole, en castant des gens dans le quartier gay de New York. C'est aussi sur Scorpio Music que va sortir Freed From Desire de Gala, Too Unlimited, donc tout un peu voilà l'eurodance des années 90.
Et Patrick Juvet
évidemment,
le grand Patrick Juvet.
Et il y a encore des gens comme ça dans le milieu de la musique qui vont caster, imaginer des groupes un peu sur papier, parce que Vanguard, il dit,
oui,
j'étais aux Antilles, j'ai entendu la Big In, j'ai trouvé ça super, j'ai fait la compagnie créole derrière. Enfin,
c'est ça. Et puis, à un moment donné, ça s'est arrêté, parce qu'il s'est dit, bon, bah, là, j'ai tout donné, j'ai plus rien à faire, bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Donc, je m'arrête et je crée autre chose. Donc, alors, est-ce qu'il existe aujourd'hui ce genre de personnage qui... Moi, je crois pas non plus.
C'est une époque un peu révolue, hein, ça aussi. Hein.
Oui, mais c'est effectivement. Et puis, il y avait moins de canaux de diffusion qu'aujourd'hui, puisqu'il y avait quatre radios périphériques. Daniel Vanguard, il était quand même très maqué avec Claude Carrère. Donc, les magouilles étaient plus simples pour faire passer les disques avec Daniel Gilbert. Un petit billet, tu me passes la compagnie créole. Non, mais c'est vrai que c'est... Alors, il y a encore beaucoup de magouilles.
Après, il y a des gros tubes électro d'EDM. Qui sont créés par des usines à tubes.
Oui,
ça existe. Mais c'est pas vraiment... On crée un artiste de toutes pièces comme Plastic Bertrand, qui arrive à faire un gros tube. Quoi. Ça, c'est vrai qu'il y en a moins. Ça existe moins.
Alors, je signale, pour faire un peu d'info dans cette émission...
Il en faut de l'info.
Voilà. Qu'il y a un documentaire qui s'appelle Au bal manqué sur France.tv qui raconte cette histoire assez romanesque du groupe de la compagnie créole, puisque ils avaient quand même la volonté au départ. Alors, le chanteur-guitariste était guyanais, d'ailleurs, c'était un mélange entre la Guyane et les Antilles, mais il avait vraiment la volonté d'être un peu pionnier et de faire danser les gens sur des rythmes d'ailleurs, comme on disait à l'époque. Et en fait, ce que raconte en gros ce documentaire, c'est évidemment le décalage qu'il y avait entre la réception en France et aux Antilles, où ça chauffait, il y avait des manifestations très très violentes dans un contexte social très tendu, et qu'évidemment la Compagnie Créole était désignée comme l'un des groupes social traîtres, quoi, par rapport à l'identité de ces régions, de ces départements.
Mais c'est quand même assez incroyable le nombre de hits qu'ils ont alignés pendant une dizaine d'années, enfin peut-être pas une dizaine d'années,
ouais,
mais
si, à peu près,
un peu moins, mais bon.
Tu l'évoquais à l'instant, Didier, par rapport à ces grandes années où il n'y avait que quatre radios périphériques et Radio France, et c'était tout, l'avènement de la télé. Aujourd'hui, la radio, elle peut encore faire des tubes, toi qui diriges la musique à Radio France.
Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Elle valide, comme je disais tout à l'heure, pour Santa. C'est-à-dire que ça y est, c'est un tube. Et si tout à coup, France Inter et Énergie entrent en programmation Santa, ça va valider le tube, mais en fait,
qui crée le tube, toi qui es vraiment le spécialiste?
Mais je ne sais pas, Patrice. Je ne sais plus.
D'où vient le tube? Qui met la première pierre dans le tube?
Il y en a moins. En fait, si on peut faire un peu d'histoire, on peut faire un peu d'histoire.
Oui,
en fait,
le
tube n'existe. Enfin, c'est quand même un mot qui une expression, enfin un mot. C'est pas une expression, c'est un mot qui a été inventé par Boris Vian. Puisqu'avant la notion de tube, dans l'industrie musicale, on parlait de saucisson quand on parlait de succès populaire. Et c'est donc Boris Vian qui a fait basculer le terme de saucisson en tube. Pourquoi ? Parce que si la musique était efficace, forcément les textes étaient un peu niais. Et donc le tube étant creux, ça résumait assez bien, de façon métaphorique, ce que pouvait être un tube. Et ça ressemble bien à notre très cher Boris Vian. Voilà, ça c'était pour la première incise historique. Vous en voulez une deuxième?
Non, c'est formidable.
On peut peut-être les disséminer au cours de l'émission. On va faire aussi des révélations. Par exemple, qui a entendu ce qui va suivre et ce qui va s'avancer sur le player de la Tsugi Radio? Ou pas?
Aha. Aha.
You know, I never realized that a world so incredibly far away as Africa could be so close to me. Look where we are right now, on this pitiful little piece of grass, suffocated by a sea of cement, oppressed by all the traffic.
Mais que se passe-t-il et qu'avez-vous fait de Joe Dassin?
Mais il ne connaissait pas.
Non, non, non.
Qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
La version originale de l'été indien.
Albatros, ça s'appelle Africa.
Africa, c'est le titre. Et vous savez ce que ça raconte? C'est un mec, un Africain, un Black, un Afro-Américain, qui est là à New York et qui est vraiment dans une dépression fatale et qui se dit « Mais qu'est-ce que je fous dans ce pays de merde ? Il faut vraiment que je retourne au contact de mes racines, l'Afrique. » Et donc voilà, c'est une chanson qui n'a rien à voir.
Donc qui est américaine.
Voilà. Non, c'est une chanson italienne.
Italienne.
Voilà, dont le texte raconte le blues d'un Afro-Américain qui se dit en fait, ce pays est un pays de social traître. Et donc, je vais retourner là d'où je viens, c'est-à-dire en connexion avec mes racines, l'Afrique.
D'accord.
Marie Laurencin.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Oui, parce
bravo
que coup,
Pierre Delado.
On est fin 74, début 75. L'album de Joe Dassin précédent, qui s'appelle Le Costume Blanc, est un bide, on peut le dire. Et effectivement, son producteur tombe sur cette chanson et confie l'adaptation pour le texte, en tout cas, à Pierre Delanoë et Claude Lemel.
Tout à fait. Mais j'ai une petite anecdote.
J'espère bien, c'est pour ça que j'ai dit les infos.
Ça, c'est super.
Qui aurait dû chanter cette chanson en français?
Serge Reggiani.
Parce qu'à l'époque, donc, il faut raconter sur l'industrie du tube, donc les éditeurs français sont à la recherche des versions originales qu'ils vont pouvoir adapter. Et donc, c'est un peu la guerre des éditeurs pour racheter les droits d'une chanson pour pouvoir l'adapter. Et le meilleur dans le genre, en France, au milieu des années 70, c'est...
Claude Carrère.
Ben non.
Ah ben non. Eddie Barclay.
Non. Bon, et voilà, il y en a un troisième qui va arriver très vite, qui était lui-même chanteur.
Constantin.
Non.
Je vais tous se les faire.
Claude François.
Oui, Claude François.
Et Claude François, qui est le roi de l'adaptation, oui. Qui allait choper les tubes à la source avant même que les autres s'y intéressent. Et donc, son directeur artistique, qui s'appelait Guy Florian, entend cette chanson originale et dit « Putain, ça, c'est un tube intersidéral. On n'a jamais fait de parler chanter en France. Il y a un truc à faire. » Et donc, il booste un peu Claude François en lui disant « J'ai un truc génial et tout ça. Il faut que je te le fasse écouter, vraiment. » Et Claude François lui dit « Bah oui, bah rendez-vous demain. Ok, mais là, je suis fatigué, je rentre de gala, je vais me coucher. » Et comme vous le savez peut-être, Claude François ne se réveillait pas avant 15 heures. La reine ne voulait pas qu'on la perturbe avant son lever. Enfin, le roi ou la reine, je sais pas, peu importe.
Ça dépend des jours.
Ouais. Et du coup, Guy Florian apprend dans la nuit que les éditeurs de Joe Dassin et Jacques Play, qui était le directeur artistique de Joe, a écouté la chanson et se dit « Putain, ça, c'est pour Joe », avec sa voix grave et tout ça. Et je pense qu'il a eu raison, parce que vous imaginez « L'été indien » par Claude François. Ça aurait fait un peu mal. Et du coup, hop, dans la nuit, il achète les droits, il préempte les droits de la chanson. Et du coup, le lendemain, Guy Florian cogne à la porte avant le lever du roi, qui était donc aux alentours de 14 heures. Il se fait mais rembarrer. Et à 15h, quand Claude François ouvre la porte à Guy Florian, il lui dit bah, « c'est trop tard, en fait, la chanson a été prise par l'équipe de Joe Dassin ». Et Claude François lui dit « mais fais-moi écouter la chanson, parce que je ne l'ai pas écoutée ». Il écoute la chanson originale, et là, il devient fou, et il dit « mais ça ne marchera jamais, le parler chanter en France, ça ne marchera jamais ». Et un mois plus tard, donc, Joe Dassin sort cette chanson qui sera le plus gros tube de l'été de l'histoire de la chanson française.
Belle histoire, ah bah, très romanesque.
Non, je ne sais pas si elle est belle, mais en tout cas, j'ai toujours imaginé Claude François en train de chanter Marie-Laurencin, tout ça. Voilà.
Il était plus dans les adaptations, il a adapté toute la Motown et tout ça. Il était quand même plus dans les adaptations, plus
tout à fait. Mais les années 70, l'auteur-compositeur roi, c'est Toto Cutugno, qui est le compositeur de cette chanson. Va faire des chansons pour Sardou, pour Sheila, pour Gérard Lenormand, pour tout, oui.
Qui viennent nous
toute Dalida, pour toute la variété française de l'époque. Et du coup, voilà, effectivement, l'été indien, c'est la quintessence du tube de l'été.
La quintessence du tube de l'été. On va s'en faire une petite bouffée quand même, hein, de Joe Dassin. Allez, Joe, sur un truc. Ça, par contre, je pense que c'est une première.
Tu sais. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais.
Et oui, l'été indien, on est en plein dedans, en plus, Didier Varro.
C'est une chanson visionnaire, on veut dire. Chanson écrite à quatre mains, effectivement, avec Pierre Delanoë et Claude Lemel. Alors, dans les quatre mains, c'est simple. Delanoë a fait les couplets et Lemel les refrains. Et puis donc, ils sont venus apporter la chanson à Joe, qui a tout de suite dit « Je prends ». Et le directeur artistique, Jacques Play, a dit « La chanson, elle est super, mais enfin, il faut enlever deux notions. L'été indien, parce que les Français ne savent pas ce que c'est. » Et effectivement, les Français ne savaient pas ce qu'était l'été indien à l'époque. Et Marie-Laurencin, parce que les gens ne connaissent pas. Donc voilà, oui.
C'était un visionnaire.
C'était un visionnaire. On parle des tubes aujourd'hui sur Tsugi Radio dans Serge l'émission en direct du Théâtre du Nord pour le Name Festival. Évidemment.
Et tu nous as fait bosser, hein. Moi j'ai pris plein de notes. Ouais,
ouais, bah, mais moi aussi, j'ai fait 4h30 de train Marseille-Lille et j'ai pas arrêté de bosser. Pour par exemple vous parler de Mon Tube à moi, c'est un morceau qui est sorti en 1984. C'est le premier single d'un artiste qui s'appelle Axel Bauer. Et on parle quand même d'un gros tube, premier single, hein, première sortie. Il en a vendu 500 000 exemplaires de son 45 tours et c'est aussi le premier clip d'une chanson française qui a été diffusée sur MTV, figurez-vous, à l'époque. Alors on parle bien sûr de Cargo, plus connu, on dit Cargo de nuit, en fait le vrai titre de la chanson c'est Cargo. C'est un texte de Michel Elie qui a été inspiré directement par Axel Bauer en le regardant son look, et puis ses trapèzes aussi, et puis par Querelle de Brest, le film de Fassbinder, qui était donc l'adaptation du roman de Jean Genet avec Jeanne Moreau et l'ultra sexy Brad Davis. Je quand même écouter les paroles de ce texte, hein, on est vraiment effectivement dans l'ambiance, l'univers que Genet et Fassbinder ont décliné dans Querelle. Voilà, il dit 35 jours de galère et deux nuits pour se vider. Lanterne rouge, je guette l'entrée. L'alcool est mon allié. L'amour, il faut payer. Voilà tout ce qui se dit dans cette chanson.
Il est tout excité.
Alors, il y a quand même Manu Katché à la batterie pour info, pour parler quand de musique. Même. Et pour refaire un peu l'histoire de ce tube, Vogue, qui est donc le label à l'époque, ne croit pas du tout au succès de au potentiel de ce morceau. Il va y avoir deux radios une qui n'a pas encore tout à fait le pouvoir qu'elle a eu par les années suivantes, et une autre qui a disparu, c'est Energy et Radio 7. Radio 7 qui était une des radios de Radio France, une première tentative de radio jeune de Radio France avant le MOVE, une radio qui n'existe plus mais qui a laissé des souvenirs impérissables à tous les gens qui y ont participé à cette aventure. Radio 7 qui est devenue France Info par la suite. Et donc avec le soutien de Radio 7 et Énergie plus MTV. Et MTV pourquoi ? Parce que ce clip a été réalisé par Jean-Baptiste Mondino, qui lui aussi a largement pioché dans le film de Fassbinder, mais aussi un peu, on pense à Scorpio Rising de Kenneth Anger ou Cruising de William Friedkin, qui est donc ce film où un policier incarné par Al Pacino va enquêter sur un meurtre qui a lieu
dans les backrooms,
dans le milieu gay à New York, à Manhattan. Alors, pour la petite anecdote, Axel Bauer entretient quand même lui-même la rumeur de sa propre homosexualité, ce qui n'est pas vrai, parce que le titre, là je me tourne un peu vers toi et tu as l'œil qui frise, à ton tour Didier Varro, cartonne dans le milieu gay à Paris, donc en 1984-1985. Moi j'étais pas bien vieux quand même à l'époque, hein, mais je me souviendrai toute ma vie du clip qui passe au top 50.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est difficile de résister à la charge homo-érotique de ce clip avec des danseurs musclés, le saillant, luisant, qui s'affairait dans la salle des machines remplie de vapeur et la pénombre. T'as des souvenirs, toi, sur Cargo, Didier Varro ?
Aucun. Bah non, mais c'était le tube, effectivement, début des années 80, de cette génération qui commençait à vivre à ciel ouvert et qui commençait à respirer après 20 ans d'oppression, un siècle d'oppression. L'homosexualité venait d'être dépénalisée, rayée des maladies mentales à l'OMS, les backrooms fleurissent dans Paris. C'est une belle époque. Ça va pas durer longtemps.
Ça va pas durer très longtemps, malheureusement. On sait pourquoi.
Et je crois, dans l'anecdote, tu parlais du clip, il me semble, il faudrait vérifier, hein, mais qu'il y a quand même une femme.
Femme, mais elle n'est que à la télé ou en poster.
Ouais.
Elle n'est jamais.
Elle est un peu à poil.
Elle est seins nus.
Et je crois que c'est Amina. À vérifier. Hein.
Amina, il faut
faire Amina, chanteuse populaire qui a incarné Paris, capitale de l'Afrique, et qui a représenté l'Eurovision avec C'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Deuxième, 12 points, et qui est Amina, a fait une carrière magnifique dans les années, fin des années 80, début des années 90.
Ce clip, c'est vraiment le top 50, quoi. Ouais, voilà. Moi ça me replonge, ouais. J'étais un peu grand à l'époque, un peu comme Didier. Ouais. Et c'est vrai que c'est le top 50, et c'est un peu le pendant de Relax de Frankie's Goes to Hollywood. C'est un peu,
c'était un tube de backroom. Hein.
Ouais.
Ça y est, le mot est lâché. Carco, Axel Bauer sur Tsugi Radio en direct du Name Festival. Cargo, c'est Axel Bauer sur Tsugi Radio, tube de backroom, voilà, comme l'a pu l'être Frankie Goes to Hollywood et Relax, Patrice Bardot.
Non, c'est un tube, c'est un peu quelqu'un, il a eu du mal à se remettre de ce tube-là. C'est ça qui est assez. Bon, c'est parce que c'était un tube qui n'était pas aussi conforme à l'idée d'Axel Bauer, qui est plutôt un rocker,
ouais,
qui est un guitariste plutôt doué, on va dire, même voire surdoué. Et il a eu énormément de mal, comme souvent quand on a un hit comme ça aussi incroyable. Il a eu beaucoup de mal. Il a quand même sorti un autre hit dont le nom m'échappe. Arrêter la lumière.
Ouais, il a fait aussi un tube avec
Zazie. Rock.
Avec Zazie.
Un duo
avec Zazie.
Et il sera à l'Olympia le 22 novembre.
Bravo.
Je tiens à vous le dire.
Et c'est pas Amina dans le clip.
C'est pas Amina dans le clip.
Non, mais je fantasme.
Mais je rebondis sur ce que tu viens de dire, Patrice, parce que c'est vrai que Sheila raconte aussi par rapport au tube.
Il fallait parler de Sheila.
Toujours. Sheila, Juliette Armanet, Véronique Sanson. Voilà. Pour rebondir, ouais, Sheila raconte aussi que pour elle, pour son parcours discographique, Spacer est trop fort. Et c'est un peu, je rebondis ce que tu viens de dire sur Axel Bauer. Spacer est trop fort et c'est difficile de faire plus, ne serait-ce que d'arriver un peu.
C'est un peu le drame, le drame d'un artiste quand il a un tube énorme. Je crois qu'ils le disent tous. Ils disent bon, on a un tube énorme. Qu'est-ce qu'on fait après? Comment arriver à ressortir un tube plus énorme? Alors finalement, la solution, c'est peut-être aussi de faire un pas de côté et d'aller sur un registre dont on n'attend pas forcément.
En tout cas, si Juliette Armanet se pose la question, elle peut appeler Michel Sardou et il va lui donner la réponse.
On a fait une programmation 100% sans Sardou. Hein, donc
voilà, lui, il a fait plein de tubes.
C'est vrai, qui passe dans les mariages. Mais elle aussi, maintenant. Donc,
Oui, maintenant aussi. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, Antoine. Oui, c'est vrai que c'est... non. Oui, voilà, tu fais ce tube énorme et après, qu'est-ce qui se passe?
Et après,
il y a un désarroi.
Il y a plein d'artistes qui ont fait plein de tubes quand même.
Oui, mais là, on est justement à cette période-là. Alors, on est en 1984 où on va avoir la naissance de tas de tubes d'artistes. Tu as parlé de chacun fait ce qui lui plaît. Voilà, le top 50, ça a été les One Hit Wonder à l'appel. Hein.
Ouais.
Alors, moi, ce que je voulais dire tout à l'heure que j'ai pas pu placer, c'est que donc il y a Boris Vian, le tube, et ensuite le vrai moment du tube, c'est le tube de l'été en fait. Le tube de l'été, ça a été pour l'industrie musicale un moment crucial dans l'année où il faut chercher la chanson qui va surpasser toutes les autres chansons et qui va rester dans le cœur des gens. Et 65, c'est la naissance du tube de l'été, avec deux tubes de l'été, Christophe, Aline et Hervé Villard. Donc Caprice est fini. Et à partir de 65, donc chaque année, l'industrie musicale fait la compète pour avoir un tube de l'été qui est en général un slow. Alors, je voulais juste vous interroger pour savoir si vous connaissez bien vos tubes.
Oula.
66, quel est le tube de l'été?
Je t'ai pas né.
Bang bang.
Petula Clark.
Sheila.
Bang bang. Sheila.
67. On va aller très vite. Hein.
Sylvie, non?
Non. Inch'Allah.
Eh oui. Inch'Allah Adamo.
68.
Julien Clerc.
Non. Tube international. Night in White Satin. Ah. Moody Blues. Trois mois numéro 1. 69, ça c'est intéressant parce que ça a une petite correspondance avec 68.
C'est peut-être c'est l'année de Que je t'aime de Johnny, non, 69.
Léo Ferré, c'est extra, qui cite les Moody Blues cette chanson.
Oui.
70, je vais aller jusqu'à 75. Là,
70, peut-être que dans le public, vous savez. Hein.
Vous pouvez répondre si vous savez, n'hésitez pas.
Le Sud,
Nino Ferrer.
Non, mais c'est que des chansons dingues. 71, ah, ça tu aimes.
Michel Delpech.
Ah, pas loin. Une belle histoire.
Ah,
Michel
Fugain. Oui. Je
72, pardon, c'est Michel Fugain. Ouais. 73, j'en ai parlé tout à l'heure. Il est resté trois mois numéro 1. La maladie d'amour, Michel Sardou.
Michou.
74, alors ça c'est rigolo, parce que personne ne trouvera, à part moi.
Pour le moment, on n'a pas été très bon.
Non, on n'a pas été bon. Là, mais là, c'est
le premier pas, Claude-Michel Schoenberg.
Ah oui, le premier pas.
Et 75, l'été indien.
Ouais. Et 75, l'été indien.
Merci Didier pour cette rétrospective historique.
Non mais c'est pour dire que le tube, c'est le tube de l'été, qu'après ça va s'effondrer avec l'arrivée du disco, Boney M, etc. Et que ça va revenir avec les boissons de l'été,
oui.
Et les chaînes de télé type TF1, etc. qui vont transformer le tube de l'été qui était un slow en chanson dansante de l'été, la lambada, cool, etc.
Oui, parce que là, à part Claude Michel Schoenberg, dont son, bon, on ne se souvient pas, après il a fait quand même Les Misérables, hein,
oui.
Mais ce sont tous des artistes qui ont continué leur carrière, ce n'était pas des one hit wonder.
Tout à fait.
Alors on va passer à la dernière partie de cette émission, après ce petit moment à se faire interroger par le professeur Varro. Il est temps d'entrer sur le dance floor, parce qu'on est quand même au NAMM Festival. Avec
c'est fini les conneries.
Ton choix, oui. Patrice. Et c'est vrai qu'en l'écoutant dans le train entre Marseille et Lille, j'ai eu beaucoup de plaisir à réécouter ce morceau de Lake Soul.
Oui, alors c'est un peu un gold aussi, puisque là on part 20 ans en arrière, hein, avec un trio qui était composé de Alexka et Miloš. C'est un trio qui vient d'Annecy, Grenoble, et ils étaient accompagnés par une jeune femme qui s'appelle Mathilde, et le morceau s'appelle Autour de toi. Alors c'est assez marrant, c'est de la techno minimale sur une chanteuse qui fait un peu l'IO, moi je trouve, quelque part, hein. Et puis c'est un tube, ça a été un tube quand même relativement underground, hein, on peut le dire, mais que dont beaucoup de DJ sont emparés, ont fait des remixes. Il y a Yvan Smag qui l'a beaucoup joué au Pulp. Pulp à Paris, boîte lesbienne, qui nous manque tous beaucoup. Et voilà, donc je voulais un peu sortir ce morceau, donc un peu oublié, il faut le dire, mais qui a un charme assez fou. Et aujourd'hui, alors bon, si vous voulez savoir ce qu'ils sont devenus. Alors oui, non, je veux rajouter aussi que ça a été produit par Christophe Liard, qui avec sa boîte Futuria Productions, était un pionnier des rêves. Ron Alpine, et qui s'est occupé plus tard aussi de Carl Cox et d'artistes au niveau du manager.
Autour de toi, c'est Lake Soul sur la Tsugi Radio. Donc le tube de l'année 2000 d'ailleurs, hein, Patrice.
Année 2000. Et puis alors, j'aime bien aussi pour répondre à une question, c'est que sont-ils devenus ? Parce qu'ils ont fait ce tube.
Alors, tu veux que te la poses, que sont-ils devenus ?
Donc Mathilde, aujourd'hui, elle travaille dans la production télé. Alex K, lui, il est chef de vente pour des produits Nintendo. Et Miloche est fondateur d'un site de vente de bière en ligne. Donc voilà, donc on va dire
ça mène à tout.
L'important dans la techno, c'est peut-être d'en
sortir. Faites un tube, ça fait rêver. Hein.
peut-être, avant d'enchaîner avec ton tube électro, Didier, la question de la durée, elle est quand même importante. On l'a évoqué tout à l'heure avec TikTok, mais voilà, la compagnie créole, le bal masqué, le morceau, il fait 5 minutes. Le Axel Bauer aussi. Bon, évidemment, les tubes électro sont souvent plus longs, etc. Là, je vais faire mon moment histoire aussi, où on rappelle que la durée des tubes radio, si on considère que les tubes radio sont nés au moment des Beatles, c'était qu'aussi, qu'est-ce qu'on pouvait mettre sur la place du 45 tours. Donc on était autour de 3 minutes pour un morceau. Cette durée, elle a un peu monté dans les années 80. Et en fait, là, on sent bien que, notamment, on voit les rappeurs qui descendent. Les morceaux atterrissent souvent autour de 2 minutes 30. Et il y avait même un album de rap qui était sorti où il y avait je sais plus combien de plages et chaque morceau faisait 31 secondes puisque ça incite à rester plus longtemps parce que les streams sont comptés au-delà de 30 secondes. Donc, il n'a fait que des morceaux de 31 secondes pour tromper un peu l'algorithme et maximiser ses streams. De la durée, elle est importante et elle est finalement beaucoup plus commerciale qu'artistique et qu'on le penserait malheureusement.
Avant, elle était limitée par la technique parce qu'il fallait
sur
la phase du vinyle, c'était 20 minutes et c'était pas une minute de plus. Donc, l'aspect artistique était limité par ça. C'est vrai que les tubes des Beatles, ils faisaient 2 minutes, 2 minutes 30. Voilà.
Sauf Hey Jude.
Mais au fur et à mesure, voilà.
Qu'ils avaient mis sur deux faces, du coup, il y avait la face A avec le début de la chanson et puis la face B.
Mais au fur et à mesure, sous effet de certaines substances, les chansons s'allongent parce qu'on a besoin de plus de temps.
Et des progrès technologiques.
Ou l'inverse. C'est vrai que c'est intéressant, pardon, de parler de drogue un petit peu, mais bon, on a le droit aussi.
Avec modération.
Beaucoup de producteurs disent que, et notamment en électro, hein, que la qualité de la substance ou la définition de la substance préfigure en fait le type de musique qu'il va falloir offrir au public. C'est-à-dire que un public qui prend de la C n'a pas la même appréhension que celui qui prend de la MD ou de la 3M. Arrêter là.
Moi, ma question était sur la durée des morceaux. Hein, pas sur la...
Pardon. Mais j'ai lu
plusieurs
interviews là-dessus.
Une encyclopédie de la drogue. Merci.
En disant
un livre à faire.
Prendre de la kétamine dans les soirées électro préfigure aussi. Il est mort de rire.
Luc Leroy à la réalisation de cette émission.
Non, mais c'est vrai. Mais
revenir au sujet.
La durée.
Au sujet de la durée. Non, mais c'est qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est vrai qu'on on est dans une société qui va très vite, où la concentration se perd. Donc, automatiquement, les morceaux raccourcissent. Quoi. C'est essentiellement pour tu rigoles.
Mais en radio, Didier, toi qui a une vue d'ensemble sur l'ensemble des radios de Radio France et évidemment sur ce que fait la concurrence, la durée d'un titre, elle est importante. Même si à Radio France, il n'y a pas les enjeux de publicité qu'il peut y avoir sur les radios commerciales, etc. Mais malgré tout, la durée, c'est un enjeu.
Pas trop chez nous. Allez, honnêtement, on va dire que ce soit sur France Inter, même sur France Bleu, qui est un format plus populaire, ou sur FIP, tu peux avoir des morceaux de 6-7 minutes. On reste quand même en dehors des radars des usages de consommation du streaming aujourd'hui.
Quel est l'âge moyen du public des antennes de Radio
France ? Je te remercie de m'avoir posé la question. D'ailleurs, j'ai un train à prendre. Je ne vais pas tarder.
Mais est-ce que par contre...
France Inter, plus d'un million de jeunes... entre 25 et 35 ans qui ont rejoint France Inter.
Et France Info aussi. Mais est-ce que par contre la durée est un enjeu pour la force du tube, selon toi, Didier ? Ou est-ce qu'on peut il peut y avoir un tube très fort de 6 minutes et,
Alors moi, je vais pas te répondre parce que j'en sais rien, mais moi j'aime ce qui est long. Non mais je veux dire, non mais j'aime les chansons qui prennent le temps. J'ai toujours, souvent, dans une autre vie où j'étais directeur artistique, les artistes eux-mêmes s'imposent ce truc de la contrainte et couplet, refrain, pont, refrain. Et je leur disais, mais quand le pont est long, j'aime bien, ça te fait partir un petit peu ailleurs. Mais je suis pas un modèle du genre, donc voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui...
Mais c'est pour ça que t'aimes les musiques électroniques aussi.
Oui, parce que ça monte lentement.
Non, mais une bonne chanson, elle est bonne, quelle que soit la durée. Si elle fait une minute ou elle en fait sept...
C'est vrai aussi.
Voilà.
Et est-ce que la chanson qui va suivre, elle est bonne? Bien sûr qu'elle est bonne, Didier Varro.
C'est à moi?
Oui, c'est à toi.
Alors, mon tube...
Électro.
C'est Cassius. Avec,
ils en ont fait, hein?
Ouais, ils en ont... Oui, mais en fait, de vrais tubes, ils en ont fait un. C'est I Love You So, qui est une chanson un peu particulière. Un petit tube par rapport à I Love You So, qui a un destin particulier. C'est pour ça que je l'ai choisi. J'aime toujours ce qui est un peu romanesque, c'est que la chanson, c'est finalement la chanson qui ne devait pas sortir. Après l'album 15 Again, qui n'a pas trop marché, ils sont un peu déçus et décident de faire un EP. Et ils sont à donf sur ce EP. Et en fait, au même moment.
Changement de label aussi.
Changement de label avec Headbanger.
Ils vont chez Headbanger alors qu'ils étaient chez Virgin.
Et à ce moment-là, ils sont sollicités pour faire une chanson pour une boisson, pour une synchro, pour une boisson énergisante. Et donc, ils font I Love You So. Et quand Pedro écoute ça, il est médusé. Il dit, mais vous n'allez pas la mettre sur le EP? Ah bah non, c'est pour... Alors, je ne sais pas quelle est la boisson énergisante, mais on imagine assez vite. Et donc, Pedro pète un câble, apparemment, en écoutant le titre. Il dit, mais vous êtes les spécialistes, en fait, je cite, quote... du tube dans le tiroir. Donc vous allez être gentil, vous allez mettre cette chanson dans le EP et on va le sortir. Et évidemment, Pedro, avec son flair légendaire, a eu raison, puisque très très vite, le titre est rentré un peu partout dans les playlists françaises, mais aussi aux États-Unis, en Angleterre et dans toute l'Europe. Donc très vite, les Cassius reviennent avec une chanson très forte. Et quelques mois plus tard... Pedro reçoit un petit coup de fil très sympathique de Jay-Z et Kanye West qui lui disent, voilà, on a adoré cette chanson, on voudrait la sampler ou en tout cas la reprendre pour l'intégrer dans une chanson qu'on va composer pour notre nouvel album. Donc Jay-Z, Kanye West qui font un album ensemble et qui décident de reprendre I Love You So, vous imaginez, Pedro qui fait des bonds en l'air, les deux Cassius sont un peu dans le même état. Et finalement, ça se concrétise. C'est-à-dire que les deux garçons viennent à Paris. Et j'adore parce que Bumba s'y raconte ça. Il dit, un matin, j'étais en slip chez moi, tout seul, à rien faire. Il dit, j'adore être en slip, d'ailleurs, chez moi, à rien faire. Et tout d'un coup, le téléphone sonne et Pedro lui dit, rendez-vous dans une demi-heure. Jay-Z et Kanye West sont à Paris, à l'Hôtel Amour. Il faut venir tout de suite, quoi. Donc, il prend sa douche, il s'habille et il rejoint les deux stars américaines. Qui passe un moment assez délicieux, mais un peu neutre en même temps, quoi. C'est un peu des formules de politesse, ouais. Voilà. Les deux garçons, Zdar et Bumba, sont quand même un peu dans leurs petits souliers. Et Pedro leur dit, bon, ben maintenant, on va aller en studio. Donc, ils vont au studio Motor Bass pour écouter quelques titres qu'ont fait Jay-Z et Kanye West, dont celui... qui va être le titre remixé par les deux garçons. Et là, Hubert raconte qu'en fait, il écoute et en 8 secondes, il dit « je déteste ». Ah, c'est horrible. C'est pas du tout... Et puis finalement, ils vont s'y faire un peu. Parce que, voilà. Et en fait, la chanson va devenir... va avoir une deuxième vie avec...
Mais je crois même qu'il existe des... Ils avaient fait des versions qui plaisaient plus à Hubert Bumbas. Mais qui, à son grand désespoir, n'est pas sorti.
Parce que tu es super bien renseigné, parce que ce jour-là, au studio Motor Bass, comme quand même, voilà, il y a ce truc un peu légendaire d'avoir ces deux stars américaines avec eux, ils proposent de faire un mix ensemble, et pendant 4 heures ou 5 heures, ils travaillent ensemble un mix, et Jay-Z Kanye West dit « ouais, ça, c'est bien, je ne vais pas le faire en anglais, parce que sinon je vais être ridicule ». Et donc, ils repartent avec ce mix. Et en fait, le mix va être jeté. C'est ça. Il y a eu plein de versions comme ça avant la version de nos deux camarades, Jay-Z et Kanye West. Mais c'est une belle histoire. Et cette chanson... Alors, autre particularité, et puis après j'arrête, c'est que c'est pas y a pas de beat. Enfin, s'il y a un beat, mais c'est un slow, en fait, un slow électro.
Il y a un sample à la base.
Mais il y a un sample à la base et c'est un slow électro. Et moi, ce dont je me souviens, parce que je sortais beaucoup en club à l'époque de I Love You So, et que c'était un tel tube que au peak time, à 2h30, à 3h du matin, etc., les DJ cassaient le set pour passer ça.
Mais c'est MDMA, ça le fait. Hein.
Je te laisse l'entière responsabilité de ces propos. Mais en tout cas, ce dont je me souviens, c'est que les clubbers dont j'étais, on était tous à fond.
Mais oui, parce
et
que
t'as
envie de faire
contents.
Des bisous.
On a envie de faire des bisous.
Des bisous, t'as envie d'aimer le monde entier.
Allez, on aime le monde entier. Et surtout, on aime Sdar et Boombas, Cassius, donc, qui ont fait ce morceau donc, sorti sur Headbanger, I Love You.
2010.
So, avant-dernier titre de cette sélection pour le Name Festival. Allez, Patrice Bardot a quelque chose à rajouter sur I Love You So.
J'ai retrouvé l'origine du sample, donc c'est Sandra Richardson. Ah bon, attendez, Sandra Richardson, parce que mon téléphone est parti. Bon, bref.
Sandra Richardson.
Tu vois, voilà, j'ignorais, moi je pensais qu'ils avaient pris une chanteuse pour faire le Ooh, I Love You So.
En I fait, feel a song, I feel a song, sample, Sandra en fait. Richardson, voilà, ouais.
Il arrive l'heure du dernier tube.
C'est le tien.
C'est
le mien.
C'est le mien.
Et là, c'est le moment où Didier Varros m'a imité Véronique Sanson. Et c'est, tu sais que vous savez tous les deux que je suis un peu un sentimental et je sais que tous les deux, on a vraiment des souvenirs très forts sur ce morceau qui va suivre. Pas que celui-là, mais en tout cas cette époque-là et l'apparition d'un artiste qui est aujourd'hui un très grand artiste, un artiste très important de la scène électronique française. Je veux parler de Rhône, qui a déboulé. Presque par accident, on l'a pas vu venir, sauf des garçons très bien inspirés qui étaient les gens qui s'occupent du label Infiné, qui s'occupent toujours du label Infiné, Alexandre Kazak notamment. Ils ont repéré ce petit bonhomme au look d'Harry Potter avec ses pulls troués qui avait fait des études de cinéma et qui bricolait de la musique un peu dans son coin. Et puis finalement, bon an mal an, Rhône commence à se prendre au jeu, à faire de la musique. Il va sortir un EP qui s'appelle La Dame Blanche, un titre qu'on a excessivement joué quand on faisait Électron Libre sur France Inter avec toi Didier. Et déjà sur cet EP il y avait ce morceau qui est Bora Vocal, un titre incroyable qui nous a tous soufflé, un titre où Rhône convie son ami l'auteur, enfin qui est devenu un ami maintenant, qui est l'auteur un peu notre seul auteur vivant d'Heroic Fantasy en France, puisque s'agit d'Alain Damasio, bien sûr l'auteur de La Horde du Contrevent et des Furtifs. Pour moi c'est un titre très très fort et c'est un titre aussi qui vient cristalliser un peu la figure de Rhône. À cette époque, on avait passé beaucoup d'espoir sur lui, notamment sur ce morceau de La Dame Blanche où il y avait un solo de saxo exceptionnel. Et on s'est pris, moi je me souviens d'être pris Bora Vocal en pleine figure. Ça devient un des premiers gros succès aussi du label Infiné sur le premier album Spanish Breakfast qui un peu sédimente l'existence du label qui est toujours en activité. On le sait, on avait fait hors série sur eux pour leur caserant. Et juste si vous voulez voir ce que ça donne, il y a une version live, il y en a qu'une hein, qui existe à la Philharmonie de Paris, il y a pas si longtemps, où un moment incroyable, tant par la réaction du public que la prestation de Rhône et d'Alain Damasio qui refait ce texte incroyable en direct. Donc voilà, c'est le dernier titre que je voulais écouter. On se dira au revoir après. Bora vocal et Alain Damasio Rhône sur la Tsugi Radio en direct du Théâtre du Nord à Lille. Dire au revoir ici au Name Festival.
Ah, déjà.
Est-ce que je peux te dire un truc?
Mais tu peux me dire tout ce que tu veux.
J'aurais bien aimé choisir Rhône aussi, qui est quand même le seul mec qui me fait pleurer sur le dance floor. Et ça, c'est quand même une vertu essentielle d'arriver à chialer sur un dance floor.
Oui, c'est la vertu originelle de la house music, c'est ce qu'on dit.
Tout ce qu'on aime à la house music, on va d'ailleurs danser, pas toi parce que toi tu rentres à Paris Didier, mais avec Patrice et Luc on va aller danser ce soir parce qu'on va au Name Festival à Roubaix à la condition publique. Merci bien sûr aux équipes du Name, à Sabine Dutoit, Fanny Bouyagi qui sont là et
on
merci
les
pour
beaucoup.
Leur fidélité et leur amitié, c'est très précieux d'avoir des partenaires comme vous dans la vie.
C'est vrai.
Merci à toutes les équipes, François Gaël Troussier aussi, merci à Luc Leroy qui a réalisé cette émission, merci au public du Théâtre
merci
du Nord
public. Merci
et à
public.
Toutes les équipes du Théâtre du Nord qui nous ont accueillis ici. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Serge. On va continuer à parler des tubes hein, parce que finalement on a fait qu'effleurer le sujet.
On a beaucoup à dire sur la question, j'ai l'impression. surtout Didier. Oh, ça nous amène des fleurs, c'est magnifique.
Voilà. Voilà. Love Vibration, merci, comme on aime bien dire.
C'est Love Vibration.
Ah là là, c'est beau.
C'est beau.
Merci à tous. Allez, merci. Bisous.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.